Elle fait partie de celles qu'on appelle les survivantes, celles qui ont survécu et sont sorties de la spirale des violences conjugales. Pendant un an et demi, Tiffany a vécu sous l'emprise et le contrôle de son compagnon violent, un homme marié qui lui a fait vivre un véritable cauchemar. Des coups de poing, des coups de pied, des poignées de cheveux arrachés, des intimidations, des menaces, des dénigrements à répétition, mais aussi des rapports sexuels imposés. Aujourd'hui, son agresseur est en prison. Il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle en 2018. Tiffany a eu le courage de témoigner, la force de parler, de raconter ce qu'elle a vécu dans un livre Vivante aux éditions Michalon, paru ce 23 janvier en librairie. Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Bonjour Florine Sylvan.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à BFM Radio. Avec vous, on va revenir sur les faits, sur ce qu'a vécu Tiffany. Tiffany qui est justement avec nous. Bonjour Tiffany Bell.
Bonjour.
Un grand merci d'être notre invitée. Vous avez accepté de raconter votre histoire pour que les choses changent aussi dans cet ouvrage et vous allez nous en dire plus, évidemment, dans un instant. Encore merci d'être là. D'abord, Florine, revenons sur le début de ce qui est arrivé à Tiffany, la rencontre avec Rudy, c'est le nom de cet homme qui va lui faire vivre un cauchemar.
Donc on est au début de l'année 2014. Tiffany, vous avez alors 25 ans, vous êtes aide-soignante, vous êtes mariée avec Jérôme, vous venez d'avoir un bébé ensemble, vous avez déjà une autre fillette d'une précédente union. Et c'est là que vous allez rencontrer Rudy, par l'intermédiaire d'une collègue. Vous allez confectionner avec votre mari des gâteaux pour l'anniversaire de l'un des fils de Rudy. Lui, il a 28 ans, il est tatoueur, il est marié, père de 4 enfants, et il va vous proposer à vous et à votre mari de décorer une maison qu'il est en train d'aménager. À l'époque, votre mari est au chômage, il passe la plupart de son temps à jouer aux jeux vidéo. Vous vous dites que ça pourra lui permettre de s'aérer un peu. Et au début, ses travaux sont comme une activité de couple. Mais peu à peu, Rudy tente un rapprochement. Il a des gestes déplacés envers vous. Dans le même temps, votre mari abandonne petit à petit le chantier. Vous vous retrouvez souvent seul avec Rudy et vous finissez par craquer et succomber à ses avances. C'est le début d'une relation toxique, avec des moments de pause, des périodes d'extrême violence et même une séquestration pendant plusieurs semaines.
Et ce qu'on perçoit très très bien à travers ce livre, c'est ce fameux phénomène d'emprise.
Oui, avec des mots simples mais tellement forts, on comprend parfaitement comment Rudy a pris l'ascendant sur vous, comment vous n'arriviez pas à vous sortir de cette relation toxique, violente, qui aurait pu vous conduire à la mort, et surtout comment la société vous a tourné le dos. On est en 2014 et la question des violences conjugales est franchement méconnue et peu prise au sérieux. Vous dites, Tiffany, qu'il n'y a pas eu de lune de miel au début de votre relation avec Rudy. Il s'impose chez vous, commence à vous isoler de votre famille, de vos amis, de vos collègues. Vous perdez même votre travail. Vous décrivez en fait à travers ce que vous avez vécu, le schéma employé par les hommes violents qui isolent leurs victimes, des femmes qui vivent dans la crainte de tout perdre. Il y a les violences physiques. Vous avez vécu un véritable enfer, où vous étiez passé à tabac, laissé quasi inconsciente, les viols aussi. Mais il y a aussi eu les violences psychologiques. C'est le cas avec Rudy qui vous fait chanter, qui vous menace de vous faire perdre la garde de vos filles. Et par votre récit, vous répondez à tous ceux qui se posent encore la question « Mais pourquoi est-elle restée ?» Et même quand vous tentez de vous faire aider, personne ne répond présent. D'abord, on ne compte pas les fois où vous vous êtes présenté au commissariat. À chaque fois, on n'entend pas votre souffrance. Vos plaintes ne sont pas enregistrées. Vos proches aussi vont en avoir marre des retours intempestifs de votre ancien compagnon dans votre vie. Et finalement, ils ne vont plus vous aider.
Ce livre, il est intéressant parce qu'il s'adresse aussi à des milliers de femmes victimes de ce type de violence. Il interpelle aussi tous les responsables sur les choses qu'il faut encore faire évoluer. Il y a eu des combats menés, il y a eu des avancées, mais il reste encore énormément de travail.
Depuis le début de l'année 2025, 6 femmes ont été tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon. C'est selon le collectif Féminicide par compagnon ou ex. En 2024, 93 sont mortes sous les coups de leur conjoint, toujours selon le collectif. Et selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, en 2023, car on ne connaît pas encore ceux de 2024, il y a eu 271 000 victimes de violences commises par un partenaire. Les deux tiers étaient des violences physiques. Face à cette libération de la parole, Tiffany en est un exemple, des mesures ont été prises. Les policiers ont été formés pour recueillir la parole des victimes au commissariat. Les personnels de santé sont eux aussi mieux armés pour orienter les victimes. Il y a eu un déploiement de téléphones grave danger ou une multiplication des bracelets anti-rapprochement. Il sera également possible partout en France pour les victimes de violences sexuelles de porter plainte directement à l'hôpital. Et je le rappelle, il existe depuis 2007, mais il y a ce numéro d'aide, le 3919. Il est à destination des victimes, mais aussi de ceux qui seraient témoins de violences conjugales.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, Tiffany. Bonjour, je vous salue une nouvelle fois et je vous remercie encore une fois d'être avec nous. On a entendu une partie de votre histoire. D'abord, ça a été difficile de faire ce livre?
Non. Non, l'écriture n'a pas été difficile. C'était important. Important de faire entendre aux autres, à travers ce que j'ai vécu, qu'effectivement, si on reste, c'est pas par plaisir. Que parfois, on demande de l'aide et on l'obtient pas. Et qu'il y a encore énormément de choses à faire pour lutter contre ce fléau. Six femmes, ouais. Déjà.
Aujourd'hui, comment vous allez? Comment vous avez récupéré tout ce que vous avez vécu?
Je vais bien, je suis vivante. J'ai une très belle famille, je me suis reconstruite, j'ai eu cette chance. Et je suis prête à mener le combat et à lutter et à parler autant de fois qu'il faut de ce que j'ai vécu pour qu'on soit entendu.
C'est important d'appeler ce livre « Vivante », justement.
Oui. Pourquoi? On m'a demandé pourquoi pas survivante, parce que non, j'ai survécu, mais je suis encore plus vivante parce qu'il ne m'aura pas détruite. Je me suis reconstruite encore plus fort qu'avant.
Vous avez des filles, est-ce que vous leur avez parlé de ce qui vous est arrivé?
Oui. Je leur apprends surtout à pouvoir se respecter, respecter leur corps et se faire respecter. Elles ont le droit de dire non. J'ai aussi un garçon et je lui apprends aussi tout petit, il a 3 ans, que quand c'est non, c'est non. Et je pense que c'est important, comme le disait Aurore Berger, d'inculquer aux plus jeunes, aux enfants, aux parents aussi, aux professeurs, d'entendre la parole d'un enfant qui est victime, directement ou indirectement, des violences conjugales ou violences sexuelles, et pour pouvoir lutter correctement contre ça. Et j'espère un jour que ça n'existera plus.
Comment vous décrivez aujourd'hui ce phénomène d'emprise dans lequel vous êtes tombé? C'est quoi ce mécanisme? Comment vous nous le raconteriez avec vos mots?
J'ai compris ce phénomène avant de passer en cour d'assises, à force d'écrire. J'ai pris du recul, j'ai essayé de comprendre aussi pour me pardonner en priorité.
Pour me pardonner?
Oui, me pardonner, bien sûr. Je me suis sentie longtemps coupable de ce que j'ai vécu. C'est aussi le phénomène de l'emprise. Se sentir honteuse, avoir honte d'être victime, de mettre un mot, déjà victime. Au début, je disais non, je ne suis pas victime. Si, effectivement. Mais je suis vivante. Mais c'est le phénomène de l'emprise, je le décrirais comme un piège, une toile d'araignée, où tout doucement, on se fait attraper. Une fois qu'on est à l'intérieur, il est très difficile de s'en dépêtrer. Il m'a fallu des mois de combat pour pouvoir essayer de m'en sortir. J'ai eu cette chance qu'il a fini par prendre peur et de partir de lui-même et de reprendre le combat par la suite quand déjà j'allais mieux au bout de quelques mois, quand j'ai su qu'il réitérait cette histoire sur d'autres femmes. Quand moi j'étais finalement tranquille, je n'avais plus de nouvelles de Rudy. C'est là où j'ai repris la route du commissariat en disant « Moi je m'en suis sortie, mais pas les autres, peut-être pas. » Donc c'est là où j'ai repris le combat et porté plainte et recommencer, relancer toutes ces démarches.
On comprend très bien dans votre livre comment, par petites touches, cette emprise se met en place. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques exemples de ces petites choses qui font que progressivement, ça bascule?
Alors, ça a été au départ pour me plaire, pour une synchronisation. Il travaillait par mimétisme. Il imitait ma façon de parler, et, en tout cas il améliorait la sienne. Il a commencé à changer sa façon de s'habiller, à me parler énormément de son vécu. Il a vu que j'avais énormément d'empathie, il m'a vite cernée aussi, il faut le dire. Il utilisait mes chansons parce qu'il voyait que j'étais quelqu'un de joyeuse, qui n'hésitait pas à danser en dessinant sur les murs. Donc ça a été ce phénomène déjà de humain en humain, de rentrer en contact et de savoir sur quel point sensible il pouvait taper. Et effectivement, ça a fonctionné. Je ne l'ai pas vu arriver. Ensuite, il y a eu aussi tout l'univers qui s'abat d'un coup quand il commence à harceler, à prendre des photos, à menacer. Mais il est trop tard. C'est déjà un peu tard à ce moment-là. J'ai encore le travail. Finalement, j'ai plus cette aide. Mes collègues qui ne pouvaient pas comprendre ce que je vivais, qui vivaient aussi dans la peur parce qu'il harcelait mes collègues. Il venait en pleine nuit, je travaillais de nuit. Il venait en pleine nuit, il passait, il n'hésitait pas à rentrer de force là où je travaillais en passant par des petits chemins. Il a été très intelligent. Il montait dans le service, il surprenait tout le monde, il menaçait. Il a menacé mon collègue sur son lieu de vie. Il menaçait énormément de monde. Donc forcément, les gens ont pris peur. Et je les comprends. Et du coup, je me suis sentie encore plus... Enfin, j'étais plus vite isolée. La perte de mon travail, ça a été la dégringolade. Il a pris possession de tout, et notamment de ma vie. Simplement.
Vous disiez... Il a su taper sur mes points faibles, qui ne sont peut-être pas des points faibles, qui sont finalement vos qualités d'empathie, d'ouverture. Comment vous regardez ça, a posteriori ?
J'ai su comprendre, en fait, qu'il a utilisé ce que vous appelez des qualités. Pour lui. Enfin, finalement, ça a aussi été des points faibles. Je n'aurais pas fait preuve, peut-être, de tant d'empathie ou d'écoute. C'est tout, ça serait... Il n'y aurait rien eu de tout ça, certainement. Je pense qu'il a repéré simplement... là où j'étais, où je faisais preuve de faiblesse, simplement, plus humainement, plus simplement. C'était facile pour lui. Et quand je fais le prorata de ce qui s'est passé, sur moi et sur les autres victimes, il a toujours agi de la sorte.
Vous avez changé votre façon de communiquer avec les autres, d'être avec les autres ?
Au départ, j'étais devenue un être différent, forcément. J'ai perdu toute confiance en moi. Je dormais avec un couteau. Je survivais la nuit. Je vérifiais constamment les portes, les fenêtres, parce qu'il faut savoir qu'il est rentré à plusieurs reprises en faisant des effractions. Il cassait les volets, il arrivait à ouvrir des fenêtres de l'extérieur. Il arrivait à rentrer comme il voulait, mais j'avais beau fermer la porte à clé, il finissait par défoncer la porte. Et quand je ne mettais pas la clé, finalement, il avait réussi à prendre une clé, à faire un double et rentrer. Il a déjà fracassé une porte à coups de cailloux. Enfin... Il arrivait, donc en fait, j'avais ce réflexe de survie à vérifier constamment les volets, les portes, et encore. Et je me réessayais, je me relevais. Et c'était même ça, c'était ultra difficile pour mon entourage. Moi, je ne m'en rendais pas forcément compte à ce moment-là, mais combien de fois mon mari me disait « Mais non, mais ça va, regarde, tu l'as fait. » Mais j'avais ce besoin. Je survivais au départ, c'est vrai. Il a fallu réapprendre à marcher dans la rue, à regarder les gens dans les yeux, comme je le fais avec vous. C'était plus possible. Dès que je croisais le regard de quelqu'un, notamment moi, je me faisais frapper, mais que cette personne se faisait insulter et frapper. Ça pouvait être un jeune homme ou une personne âgée, ça ne l'effrayait pas. Donc, je vivais en survie avec lui. C'est vrai, il a fallu tout réapprendre. Et une fois que ce cap est passé, après la cour d'assises, j'ai repris ma vie en main. Et oui, je suis à nouveau vivante. Oui.
Florine nous décrivait très bien ce phénomène d'emprise. Il faut l'expliquer peut-être encore plus, parce que beaucoup de femmes qui vous écoutent, qui sont peut-être dans votre situation, s'en veulent peut-être, comme vous le disiez au début, parce qu'on se dit « j'ai pas la force » ou « je n'ai pas réussi à partir ». C'est extrêmement difficile dans ces moments-là de réagir. Pourquoi on est bloqué ? Pourquoi on n'y arrive pas ? Comment vous, avec le recul, vous l'expliquez ?
Il y a aussi les périodes où il y a des périodes d'accalmie. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier de préciser, c'est que la violence est extrême. Les actes... sont parfois des actes de torture aussi. Mais dans les périodes d'accalmie, c'est comme si en face de vous, vous avez une autre personne qui essayait de se faire pardonner d'une manière ou d'une autre. Alors on ne pardonne pas, c'est faux. Il ne faut pas dire qu'on pardonne tout, c'est faux. Mais on entend. On entend parce que justement, on a toujours cette empathie, on a toujours voilà, ce qui s'est passé. On a aussi cette honte et ce remords de dire bah, « Oui, mais si j'en suis là, c'est de ma faute en fait. » Moi, c'était ça. Il fallait que je m'en sorte seule. C'était ma vision des choses. Je voulais pas mêler les autres parce que je voulais pas qu'ils leur fassent de mal. Ils menaçaient tout le monde, ils menaçaient mes parents, ils menaçaient le père de mes enfants, ils menaçaient mes collègues, ils menaçaient mes amis. Mes voisins n'ont jamais rien tenté parce qu'ils avaient peur de lui. Ils m'ont vu dans des états lamentables sur une route traînée au sol. Aucun n'a osé s'interposer. Ils étaient terrorisés du comportement de Rudy. Il faisait peur à tout le monde. Je voulais mettre personne en danger. Donc, en fait, je me suis toujours dit, je vais m'en sortir toute seule. Et en fait, ça a été difficile à la fois, mais ça a aussi été une force pour moi, pour me combattre tout ça.
Avec ce livre, vous, Vous avez envie de dire quoi aux femmes ?
Il faut lutter, encore et encore, et pas forcément aux femmes, c'est aux entourages. Une fois qu'on est seul face à un homme qui vous tyrannise, qui vous menace, qui menace les enfants, parce que ça a été aussi une de ses choses favorites, c'est de menacer mes enfants, de s'en prendre à mes enfants, ou directement, ou indirectement en disant que j'allais perdre la garde. Mais c'est que l'entourage, il faut continuer, en fait. Quand on est seul face à son bourreau, à part moi me taire quand j'avais mes enfants pour pas qu'ils s'en prennent à eux, ou me débattre quand ils étaient absentes, sinon je pouvais rien faire de plus. Les voisins qui entendent, qui montent le son, qui n'osent parler des peurs de représailles, les collègues qui voient des traces autour du cou, on peut pas dire qu'on est tombé des escaliers éternels, c'est faux. C'est alerter, voir et écouter simplement. Avoir assez d'empathie pour se dire que ça peut arriver à votre mère, à votre sœur et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et que si on est là, c'est pas par désir.
Vous avez vécu ce long processus judiciaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail encore à faire sur la manière dont on recueille les plaintes, la manière dont on recueille la parole des femmes victimes? Est-ce que sur ça, vous avez le sentiment qu'on a progressé, mais qu'il y a encore beaucoup de travail?
Oui, je pense qu'il y a eu des améliorations, effectivement. Du travail, oui, il y en a encore à faire. Il n'y aurait pas autant de chiffres alarmants et ça, c'est scandaleux, c'est pas possible. Tant sur les femmes que sur les enfants qui, eux aussi, souffrent de tout ça. Il y a encore énormément de travail à faire, surtout sur l'alerte. Sur l'alerte, une fois qu'on a alerté en disant, écoutez, ma voisine, je l'entends crier à plusieurs reprises, à surveiller, tout de même, simplement. Bah, peut-être que cette voisine-là, cette année-là, elle survivra, simplement.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, personnellement, dans tout ce processus ?
Tout est frappant, finalement. Mais ça m'a rendue toujours plus forte. J'ai pas eu envie de baisser les bras et j'ai pas voulu être en colère. Au contraire.
Vous la voyez comment, la suite, maintenant ?
Belle, forcément. J'espère que je vais pouvoir aider à lutter contre toutes ces violences faites aux femmes et aux enfants et avoir un peu d'impact à travers ce que j'ai vécu.
Merci beaucoup. Merci d'avoir eu la force de témoigner. Tiffany Bell, vivante, ça porte très très bien son nom et on l'a compris en vous entendant aux éditions Michelon. Merci beaucoup. Merci. Florine, affaire suivante, le podcast Inédit, c'est à retrouver évidemment sur le site de bfmt.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.